France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Tout un monde, on l'a visité ou non, on l'a habité ou non, et on l'a dépassé ou non. Des étudiants de la rue d'Ulm, ils ont intégré. Du lycée Henri IV, ils sont cagneux. La cagne. La cagne, qu'est-ce donc que la cagne? Ambivalence de la cagne. La cagne, assurément, un lieu de mémoire. Première diffusion de cette émission, le 19 décembre 1996.
Lieu de mémoire. La Cagne, une émission de René Elkaïm Bollinger, réalisation Nathalie Trianda-Philides.
Jean-Dominique, est-ce que vous pourriez lire le Bouzou de Normalien?
Alors, Alexandre Adler, Maurice Agulon, Alain, Louis Althusser, Raymond Aron,
Pierre Boutan, Robert Brasillac, Pierre Brossolette, Roger Caillois, Georges Canguilhem, Yves Canac,
André Comte-Sponville, Victor Cousin.
De quoi se nourrit le cagneux? Le pain du cagneux, c'est la citation. L'arme secrète des forts est la béquille des faibles. Et là, je cite Pierre Nora dans un article du Débat, Cagne 1950. Alors, qu'est-ce que la cagne? On pourrait dire que c'est une classe préparatoire à une grande école, mais ça ne suffit pas. Dire qu'on y usine férocement en vue d'un concours très sélectif, ça ne suffit pas non plus. Surtout si l'on pense à un autre sens du mot « cagne » qui signifie « chienne de mauvaise vie » et par extension « avoir la cagne » en français d'Occitanie, « avoir la flemme ». Grande est l'ambivalence de la cagne, donc, par où passent ceux et celles qui se destinent à l'école normale de la rue d'Ulm, à Fontenay-Saint-Cloud ou à Sèvres, naguère. École destinée à faire avec des étudiants, des professeurs, après le concours de l'agrégation, lettres, philosophie, histoire, latin, grec.
Alors là où on est, là?
Là, on est dans la cour aux Ernestes et le bassin aux Ernestes. On peut même s'approcher et on va pouvoir voir les Ernestes qui donnent leur nom à la cour et au bassin.
Charmant petit poisson rouge dans l'eau boueuse, vous voyez.
Les Ernestes sont des poissons rouges.
Voilà. Là, mais on n'a pas la chance de...
on les voit pas.
Un petit peu.
Parce que l'eau est très bourbeuse. Alors donc, les Ernestes, c'est la rue d'Ulm. La rue d'Ulm, c'est dans le 5e arrondissement. C'est Normale Sup. Donc, puisque nous sommes à Normale Sup, ça veut dire que tous, vous avez fait une cagne.
Oui.
Voilà, moi je viens tout d'abord du lycée Henri IV, où j'ai fait deux cagnes à elle, puis du lycée Louis le Grand, où j'ai fait une troisième cagne à elle.
Moi je viens également du lycée Henri IV, ça changera, mais pas une cagne à elle. J'ai fait une cagne BL, c'est-à-dire qu'en plus des matières littéraires traditionnellement enseignées en cagne, on a suivi un enseignement en mathématiques et en sciences sociales.
La même chose que mon ami Alexandre, j'ai fait une cagne, même deux cagnes, j'ai eu le plaisir de faire deux cagnes BL au lycée Henri IV.
Voilà, alors moi je suis le cas rare, je viens de Bordeaux, j'ai fait ma cagne, une seule, au lycée Montaigne de Bordeaux et une cagne BL. Mais il faut dire que y a beaucoup de gens qui sont à Henri IV et qui viennent initialement de province. Ouais. Tu vas essayer de défendre un petit peu la province.
Moi-même je suis le seul parisien, donc ici finalement...
La cagne, c'est aussi des maîtres. Alain, Jean Beaufray, Jean Lacroix, Jean Guéhenot. Maître dont Pierre Nora, toujours dans son article Cagne 1950, nous dit qu'ils étaient des professionnels de l'enthousiasme. Nulle part ailleurs que sur ces bancs gris ne s'opère une telle dépense de liqueur amoureuse. C'était en 1950. Maintenant, en 1990, dans les années 1990, Alain Le Gallo, lui-même professeur de cagne, a la dent dure. Les cagnes sont à présent des séminaires où les jeunes prêtres apprennent à gloser et à démonter les textes sans jamais songer à en fabriquer eux-mêmes. Alors les cagnes sont-elles ce qu'elles étaient? des lieux de condensation de la culture, des conservatoires et des temples, ou aussi des lieux de vie.
Alors, cagneux pour la vie, est-ce que vous êtes cagneux pour la vie ?
Il est certain que, surtout lorsque, comme c'est mon cas, on a fait plusieurs cagnes, c'est une formation qui vous imprègne et qui laisse des traces. On a du mal à se débarrasser de certaines manières de travailler, certaines manières de parler, certaines manières de procéder. Ceci dit, ça n'est pas l'imprégnation d'un moule trop étroit non plus, puisque la cagne se distingue d'autres formations par sa variété.
Alors, vous vouliez vous débarrasser d'habitudes de langage. C'est quoi ces habitudes de langage, par exemple ?
Par exemple, dans les classes auxquelles j'ai participé, dans les classes que j'ai suivies, la présentation en trois parties, l'annonce de plan avec la phrase en trois parties scandée par deux virgules, ce genre de tics rhétoriques qui sont autant de mots de passe parmi les anciens cagneux. Il est vrai qu'à plusieurs occasions, on s'est pris à penser qu'il y avait certains auteurs dont les cagneux étaient friands et qui ne se lisaient pas autant ailleurs. Genette, c'est très vrai, mais c'est vrai aussi en littérature pour Madame de Lafayette, par exemple, ou bien Marguerite de Navarre, des auteurs fréquemment étudiés dans les cagnes et ce qui ne correspond pas toujours au goût du grand public, des auteurs qui forment des petites niches dans notre formation.
Alors, je voudrais savoir, les uns et les autres, si vous vous souvenez de grandes souffrances de cagne.
La nuit blanche, passé à rédiger une dissertation de philosophie, a sur le coup un petit côté effectivement calvaire, mais après, ça fait plutôt des bons souvenirs. Une dimension presque héroïque à se repasser le film de la nuit blanche.
Est-ce que c'est un héros pour vous?
C'est quelqu'un qui va plus loin que ce qu'il pensait pouvoir faire.
Oui. Et vous, souffrance?
Souffrance peu en fait, j'ai beaucoup plus le souvenir de grands moments de bonheur que de grands moments de souffrance.
Alors, pour moi non plus, la cagne n'est pas du tout synonyme de souffrance, c'est plutôt synonyme d'épanouissement après, bon, pour moi, une terminale C qui avait été assez difficile. Donc la rencontre avec ce que j'aimais vraiment et ce que j'étais vraiment. Et surtout, quelque chose de très agréable, c'est d'avoir un objectif précis. De savoir que s'il y avait beaucoup de travail, il n'y aurait peut-être pas ri au bout.
Toujours en cagne à Louis-le-Grand. Conditions de vie de plus en plus difficiles. Santé fragile. Rentre à Elbière pour 3 mois. Au retour, quitte l'internat. Chambre de bonne, rue Lagrange. Effondrement nerveux. Sommeil perdu. Somnifère et amphétamine. Doit abandonner le concours à la première épreuve. Jacques Derrida, 1950-1951.
La cagne est un lieu situé à l'intérieur d'un lycée qui cependant se rattache à l'enseignement supérieur puisque c'est une formation post-bac. Et c'est essentiellement caractérisable par la diversité, à mon sens, hein, bah, ça demande à être discuté, mais par la diversité des matières qu'on y étudie et aussi par, sans doute par l'imprégnation d'une culture livresque.
Bon, on va peut-être rentrer, hein, parce que
on m'a envoyé en Suède où j'étais un coup de téléphone pour me dire que pensez-vous de la fermeture du tabou. Fermeture du tabou, mais je n'ai jamais mis les pieds, j'ai répondu. Je m'en moque complètement. En fait, n'est-ce pas, l'existentialisme, c'est une
philosophie. Je vais essayer de vous expliquer les différentes parties d'une théorie de la paix et de la guerre ou de la diplomatie et de la stratégie, mais je vais arriver à cette théorie d'ensemble en repassant par un chemin un peu compliqué. En d'autres termes, je prendrai pour commencer l'exemple d'une conduite sportive, à savoir le jeu de football.
Je crois, si vous voulez, que le marxisme se trouve en fait en dehors de cette alternative qui nous est ici proposée par certains savants des sciences de la nature, entre d'une part la causalité mécanique et d'autre part l'événement probabilitaire ou l'événement statistique. Je crois que le marxisme s'intéresse à toute autre chose. Et il traite l'objet auquel il s'intéresse avec des catégories qui ne me paraissent relever ni de la causalité, ni de la probabilité.
Althusser, 1976, Aron, 1958, Sartre, 1952.
Pour moi, c'est un lieu privilégié qui permet peut-être de faire la transition qui me semble difficile entre le travail du lycée et le travail de l'université. Mais je voudrais dire que c'est vraiment un lieu protégé par rapport à l'université, peut-être au monde en général.
Protégé, c'est-à-dire enfermé ou protégé contre les dangers de l'extérieur ?
Protégé contre les dangers de l'extérieur, en quelque sorte. C'est peut-être un peu raccourci, mais l'âge adulte et le passage à l'âge adulte et tout ce que ça suppose. Mmh. Et en même temps, j'ai l'impression que Normale Sup prolonge un petit peu cette protection de la cagne. Mais c'est vraiment tout à fait personnel.
Ça prolonge l'enfance, au fond.
Peut-être.
Enfin, je suis d'accord sur la cagne. Je pense que c'est un lieu protégé dans lequel on reste, non pas enfant, mais disons adolescent. En revanche, je crois que quand on rentre à l'école, la rupture est à ce moment-là. Et là, on devient vraiment adulte, tout simplement d'abord parce qu'on doit faire un choix. On était dans un contexte de diversité, dans les matières enseignées. Et à partir du moment où on rentre à l'école, il faut choisir. Et je pense que c'est la confrontation au choix qui définit l'adulte.
Galette que ton nom. 3,
4. Noble galette que ton nom soit immortel en notre histoire, qu'il soit ennobli par la gloire d'une vaillante promotion.
Jean-François Sirinelli est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lille, auteur de l'article « La Cagne » dans « Lieu de mémoire » Gallimard. La Cagne, fiche d'identité.
Alors, d'abord, stricto sensu, c'est la classe préparatoire au concours de l'École normale supérieure. Mais vous venez de dire fiche d'identité, donc il y a une naissance et il y a une appellation. Alors, si on commence par l'appellation, on se rend compte que cette appellation, elle est d'une certaine façon curieuse, elle vient puiser dans le folklore étudiant. C'est-à-dire que cette cagne, ou ce terme cagne plus exactement, est né dans la bataille d'épithètes entre catégories d'étudiants au XIXe siècle. En effet, dans les classes préparatoires, il y avait d'un côté les littéraires qui préparaient le concours littéraire de l'École normale supérieure, et d'autre part, il y avait les scientifiques qui préparaient notamment Polytechnique, qui à l'époque était une école militaire. Et dès lors, dans l'imaginaire de ces différentes catégories, l'artilleur vu par des littéraires ne pouvait être qu'avec une mauvaise vue, en quelque sorte, d'où le surnom de taupin, en quelque sorte, hein, qui voit aussi mal qu'une taupe. Et inversement, pour quelqu'un qui préparait un concours d'officier, comme un scientifique, le littéraire ne pouvait être qu'un être difforme, à la démarche mal assurée, en d'autres termes un cagneux, parce qu'il aurait eu les genoux cagneux, les jambes tordues. Et à partir de là, si vous voulez, il y a eu de surcroît ce phénomène classique, c'est-à-dire que les gens pour lesquels l'épithète se voulait blessante, l'ont repris à leur compte. Donc les cagneux, un peu par dérision dans un premier temps, se sont autoproclamés cagneux, et de surcroît, comme nous étions dans le cadre d'humanité classique, il y a eu une sorte de surenchère, de boursouflure du langage qui fait que la cagne CA est devenue KHA avec un iota souscrit. Donc il y a eu une boursouflure qui a débouché sur ce mot qui maintenant fait partie, en quelque sorte, de la mémoire intellectuelle française, le mot cagne.
Alors justement, la mémoire intellectuelle française, ça fait référence à un lieu de mémoire. Finalement, quoi est-ce que la cagne, c'est un lieu de mémoire ?
Alors, c'est un lieu de mémoire. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que la cagne est née plus précisément sans qu'à aucun moment il n'y ait de texte proclamant ou réglementant sa naissance. En d'autres termes, la cagne est née non pas par hasard, mais elle est née comme une sorte de produit dérivé. Je m'explique. Au moment de la Révolution française, est créée l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Le seul diplôme requis pour se préparer ou se présenter à ce concours est le baccalauréat. Or, l'habitude se prend de venir redoubler en classe de première aux côtés des jeunes gens qui, eux, sont simplement en première, d'où l'expression « rhétorique supérieure », puis, dans un second temps, première supérieure. Et donc, jamais aucun texte n'a créé ces classes. Mais petit à petit, bien évidemment, les administrateurs de lycée, les administrateurs de l'éducation nationale se sont rendus compte du côté aberrant de faire coexister d'une part des jeunes gens de 15-16 ans qui préparent la première partie du baccalauréat et d'autre part ces gens bacheliers à bac plus 1 ou plus 2 comme on dirait de nos jours qui eux sont là pour préparer l'un des concours les plus sélectifs de France. Et dès lors, donc, mais il faut attendre la toute fin du 19e siècle, se créent des rhétoriques supérieures, hein, puis à partir du 20e siècle on appellera ça des premières supérieures autonomes, c'est-à-dire des classes autonomes.
René Raymond, vous avez fait vos cagnes, on peut dire, à une période charnière de l'histoire.
Oui, c'est vrai. Nous avons vécu contemporain de grands événements, puisque j'ai fait 3 années d'hypocagne et de cagne à la veille de la guerre, entre 36 et 39. Je me suis d'ailleurs présenté au concours de l'été 38 et l'été 39. J'ai d'ailleurs été admissible à l'un et à l'autre. C'est la raison pour laquelle quelques années plus tard, j'ai utilisé ma 3e chance, puisqu'on avait 3 possibilités de se présenter. Mobilisé à l'automne 39, comme ma classe, je n'étais démobilisé qu'au début d'octobre 41. Et là, après un moment d'hésitation, je suis rentré en Cagne, à Louis-le-Grand. J'ai donc fait une 4e année, et j'étais reçu dans la foulée à l'été 42. Condorcet était une Cagne agréable, parce que au fond, on ne préparait, il n'y avait pas de course intensive, on ne préparait guère le concours. Il y avait un cagneux reçu un tous les 3 ans à peu près à Condorcet, tandis que les cagnes où il y avait vraiment un entraînement efficace, c'était Louis-le-Grand et Henri IV.
Quelle a été au fond l'influence des événements politiques qui ont traversé cette période?
En 36, oui, je me rappelle, la cagne était assez partagée. Et on avait fait un référendum pour les grands esprits, les philosophes. Les uns votaient pour Marx, il y en avait pour Maurras, il y en avait d'autres pour saint Thomas d'Aquin.
Et vous aviez voté pour
une distrib... Je ne me rappelle plus, j'avais sûrement pas ni pour Marx ni pour Maurras, assurément. Le reste, je ne sais pas, on devait pouvoir mettre 10 noms, mais je ne me rappelle plus le reste. Mais c'est ce qui prouve que les débats... se situait à la charnière de l'intellectuel et de l'actualité, du politique et de la philosophie. Mais plus encore, je me souviens davantage des problèmes de politique extérieure, notre réaction au moment de l'Anschluss en particulier. Nous avions, entre autres, un professeur d'histoire pour lequel j'avais beaucoup d'estime, qui était Maurice Crouzet, qui a dirigé la grande entreprise aux presses universitaires d'histoire générale des civilisations. Et qui réagissait aux événements. Et je me rappelle notre conviction partagée entre lui et la plupart d'entre nous dès l'entrée d'Hitler à Vienne que nous aurions la guerre. Enfin, nous n'étions pas. Par conséquent, nous vivions dans une psychologie d'immédiate avant-guerre avec l'ombre portée de la guerre à venir. Et, alors, c'est vrai que Et par exemple, l'explication de texte recevait de l'actualité un éclairage assez singulier. Je me rappelle en grec, traduisant les discours de Démosthène. Et tout naturellement, nous faisions la transposition entre la menace qui pesait sur Athènes, Philippe, les avertissements adressés par Démosthène prenaient pour nous une signification extrêmement actuelle devant la menace national-socialiste et contribuaient à faire de nous des anti-munichois.
Ils arrivent du fond de leur province avec tous leurs accents. Le Picard, le Breton, le Poitevin, le Languedocien, le Provençal. Patoisant encore un peu quelquefois, mais curieusement semblables par une ferveur admirable, tout intellectuelle, qui n'exclut ni la critique ni l'ironie. On n'imagine pas ce qu'ils entassent dans leur cervelle. Ils se donnent naturellement les airs du scepticisme et se chamaillent entre eux à propos de tout. Mais je crois bien leur connaître une foi qui suffit à les mettre à part de tous les autres jeunes hommes de leur génération, en France et peut-être dans le monde. Ils croient à leur langue, à la langue.
Jean Guéhenno. Cette montée sur Paris dont parle Jean Guéhenno, c'est aussi celle de Maurice Agulon, historien, professeur au Collège de France.
Je venais du lycée d'Avignon et étant ainsi méridional, j'aurais eu, compte tenu de la géographie des Cagnes et de ce temps, comme destination normale, soit celle de Montpellier, soit celle de Marseille. Mais mes parents avaient été bien conseillés par des amis et leur avaient dit qu'avec un petit effort supplémentaire, si on m'envoyait à Lyon, j'aurais plus de chances de succès parce que c'était une chaufferie plus intense. Ce qui était vrai du reste. Lyon était la plus grande, incontestablement, des Cagnes de province. Et cela d'autant plus que, comme on était en 1943, Lyon était en quelque sorte surpeuplée de Parisiens, réfugiés en zone sud pour une raison ou pour une autre, ce qui augmentait encore le potentiel de matière grise, enfin d'esprit d'émulation. Ce qui changeait le plus à titre personnel, c'est que au lycée d'Avignon, mes parents habitaient à très peu de distance de là. J'étais demi-pensionnaire, tandis qu'à Lyon, j'ai fait pour la première fois l'expérience de l'internat, ce qui est un changement plus grand.
Il y avait le changement géographique aussi, quand oui. même. Ça, c'est important, non?
Parce le changement géographique était intéressant parce qu'il a été pédagogiquement utile. En m'entendant parler, vous avez compris que je n'ai pas perdu toute trace de l'accent du Midi originel. Mais il y a 50 ans, j'en avais beaucoup plus. Et il y a un certain nombre de fautes de français et de prononciations spécifiquement méridionales qu'aucun instituteur et aucun professeur du Midi n'avait jamais corrigé et que j'ai dû corriger en quelques semaines sous le simple effet de la raillerie de mes camarades de Saint-Étienne ou de Chambéry. Quand je disais par exemple, pour prendre un exemple élémentaire, une année au lieu de dire une année, des choses comme ça, ou bien quelquefois faute au lieu de faute. Vous voyez, des choses qui étaient de l'ordre de la prononciation.
Alors Jean-François Cirinelli, pour cerner un peu la Cagne, la classe de Cagne, vous utilisez des métaphores. Et vous dites, bon, c'est un couvent laïque pour boursiers conquérants. Vous dites aussi que c'est l'académie du début de la vie, un noviciat laïque, un hôtel et un conservatoire. Alors tout ça sont des références à l'Église. Ce sont des références aussi à la laïcité, bien sûr, mais aussi à un certain enfermement.
Oui, effectivement, j'emploie le terme, notamment le terme noviciat laïque, bon, pour plusieurs raisons. D'abord, vous parliez à l'instant de boursier conquérant. Alors, l'image est une image tirée d'une autre expression d'un historien célèbre qui s'appelle Charles Morazet, qui, dans une étude devenu un classique de l'historiographie française, étudiant l'histoire du XIXe siècle, parlait des bourgeois conquérants. Les bourgeois conquérants qui font l'histoire du XIXe siècle et qui sont la classe politique et sociale montante. Et naturellement, je pervertis d'une certaine façon l'expression pour parler de ces boursiers conquérants. Ces boursiers conquérants, pourquoi? Parce qu'il faut bien replacer cette Cagne. Et là, nous touchons progressivement à cette notion de lieu de mémoire. Il faut bien replacer cette Cagne et, à travers elle, l'école normale supérieure, dans le système méritocratique de la Troisième République. Ce qui est intéressant, notons-le au passage, c'est que donc cette Cagne est une sorte de greffe, de kyste sur le système des grandes écoles. Déjà, nous touchons là probablement à l'une des raisons d'une certaine exception française, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'équivalent des Cagnes dans d'autres pays, si vous voulez. Mais je reviens à cette notion de boursier conquérant, c'est-à-dire que dans ce système méritocratique de la Troisième République, et pour préparer ce concours qui est un des plus prestigieux, parce que ce qui est intéressant quand on travaille sur une institution, c'est de voir aussi son image. Et si vous voulez, très rapidement, sous la Troisième République, il y a deux écoles qui deviennent prestigieuses, d'une part Polytechnique, et d'autre part l'école normale supérieure. Et donc, pour préparer cette école prestigieuse au concours redoutable, où s'affrontent plusieurs centaines de jeunes gens venus de leur province, qui sont dépositaires des espoirs d'une famille, des espoirs d'un lycée, des espoirs de professeurs, et donc ces jeunes gens viennent s'enfermer au sens propre, puisque beaucoup d'entre eux sont internes, puisqu'ils viennent de leur province, ils viennent s'enfermer dans l'internat d'un certain nombre de lycées parisiens. Et quand je dis un certain nombre, il faut aussi préciser une chose, c'est que la Cagne a gardé légitimement son auréole en cette fin du XXe siècle. Mais d'une certaine façon, elle s'est banalisée, je veux dire par là, le terme n'est pas péjoratif dans ma bouche, c'est qu'elle s'est multipliée. On a plusieurs dizaines de cagnes et d'hypocagnes en France. À l'époque de la Troisième République, encore dans l'entre-deux-guerres, on a au maximum une dizaine d'hypocagnes et de cagnes en France. Et notamment à Paris, il n'y a que 4 cagnes. Hein, et encore en comptant le lycée La Canale en banlieue, en quelque sorte. Hein. Et par exemple, le lycée Louis le Grand, à cette époque, a certaines années la moitié des reçus au concours, qui sont des internes. Mais boursiers conquérants, et j'y reviens pourquoi, parce que souvent ce sont des jeunes gens issus des classes moyennes et qui ont pu gravir, en quelque sorte, les échelons de l'enseignement secondaire, dont il ne faut pas oublier qu'il est payant jusqu'à la fin des années 20, grâce à des bourses. L'exemple le plus célèbre, c'est par exemple Georges Pompidou. Georges Pompidou, qui rentre à l'école normale supérieure en 1931 et qui, auparavant, est un jeune lycéen de province, fils d'un couple d'instituteurs. Il est lycéen au lycée d'Albi. Il a, en 1927, le premier prix de version grecque au concours général. Il est à la fin de sa première. Et dès lors, dans ce système méritocratique de la Troisième République, son destin est scellé. Pour ce qui est de la Cagne, là, la statistique le montre, si vous voulez, incontestablement, c'est une sorte... On aurait dit sous l'Ancien Régime de savonnette à vilain, mais les vilains, en l'occurrence, là, étant les enfants des classes moyennes, hein, qui sont largement aspirés vers le haut. En revanche, c'est vrai notamment que les enfants de la classe ouvrière se trouvent, mais ça n'est pas propre à la Cagne, c'est propre au dispositif plus généralement, dispositif de la Troisième République, se trouvent très largement exclus de ce phénomène de capillarité sociale.
Raymond, vous avez fait Cagne en quelle année ?
Alors, donc, j'ai fait Cagne en 1990. J'étais au lycée La Canale. Je voulais surtout pas aller Henri IV parce que la Cagne, c'est déjà un gros morceau assez contraignant. Et donc, la perspective d'un grand parc à La Canale, ça m'a pas mal motivé. Et voilà, donc j'ai fait 2 années, en fait, 2 cagnes différentes. Une première Cagne que j'ai faite... le plus librement possible, c'est-à-dire sans penser au concours, sans souci de rentabilité, sans me mettre trop la pression. Moi, je faisais les choses avec du temps parce que j'avais fait des choix. Donc, je faisais de la philo. Une disserte de philo, je passais 2 mois, 3 mois.
Quelle image vous vous faisiez de la Cagne avant d'y entrer ?
Une image un peu, enfin, forcément monstrueuse quand on est au lycée Henri IV et qu'on... On nous tanne dès la seconde avec le discours de l'élitisme, avec la voix royale, avec tout ça. On ne peut arriver qu'en Cagne, qu'assez impressionné et puis assez angoissé. Finalement, c'est très dur la première année en hypocagne de s'y faire parce qu'il y a l'enjeu du passage et qu'il faut réussir. Et puis, il y a eu un prof de philo formidable qui, dès le premier trimestre, nous a fait travailler sur Lévinas, sur ce sujet magnifique, sur le désir d'être est-il en nous plus fort que le désir d'être heureux. Et c'est vraiment... Enfin, si je devais résumer, dire quelle est l'image que je garde de cette Cagne, c'est ça. C'est ce moment-là, ces 3 mois qui se sont passés autour de ce sujet. 3 mois où il y a eu des échanges dans la classe, où finalement, à partir d'un exercice qui nous était imposé et qu'on devait faire avec une certaine ordre et tout ça, l'exercice de la dissertation, enfin le plan, introduire l'auteur, tout ça, il y a eu des discussions dans la classe qui étaient passionnantes. Et puis, il y avait un vrai travail d'écriture. Et en Cagne, finalement, il y a une espèce de moule qu'on impose et avec la perspective du concours, on va sortir des gens issus du même moule, comme des petits pains. Alors ça, soit on le subit et on en souffre terriblement. En Cagne, il y a des gens dans la classe qui ont fait des dépressions, qui ont abandonné, qui ne supportaient pas. On peut en souffrir très durement. Moi, je sens que cette réflexion-là que j'ai eue pendant 3 ans, c'est quelque chose qui s'est déposé. Et que j'ai eu besoin, à l'époque même, et ça a beaucoup fait rigoler le prof d'ailleurs, d'élargir, enfin quand il a posé ce sujet là sur le désir d'être, est-il en nous plus fort que le désir d'être heureux, Il se trouvait que dans le mois de novembre, Lévinas faisait une conférence à Paris, à l'UNESCO, et je suis allé le voir à la fin. Et je lui ai posé la question. C'est-à-dire que ce sujet-là, avant d'être un sujet, j'avais besoin que ce soit une question dont on puisse parler comme ça librement. Enfin, il y a ce vocabulaire philosophique, mais j'avais besoin d'avoir cette réponse de Lévinas lui-même. Et puis, quelle serait sa réaction par rapport à un sujet de dissertation ? Et je le vois très bien, enfin, il était d'abord au fond de la salle, tout petit, et puis quand il est sorti, je me suis approché de lui, et je lui ai posé la question, et il a réfléchi 2-3 secondes, mais pas vite, il m'a répondu spontanément, « Que m'importe d'être heureux, pourvu que je sois ?»
Cagne pour la vie, une histoire des années 60, Jean-Pierre Faguet. Sommaire, introduction, chapitre 1, la voie royale et la porte de service. Chapitre 2, une famille de substitution. Chapitre 3, les cagneuses ne sont pas les sœurs des cagneux. Chapitre 4, un double marché du travail.
Chapitre 5, une reconversion dans le secteur privé.
Chapitre 6, le sens de l'échec. Chapitre 7, un choix impossible. Chapitre 8, épouses et collaboratrices. Chapitre 9, cagneux pour la vie. Conclusion, note, annexe, trajectoire tabou. Bon, alors il y a un chapitre 1 qui s'appelle « La voie royale et la porte de service » et vraiment, enfin, ça demanderait à être un petit peu parcouru parce que je me demande ce que c'est, mais...
Cagneux pour la vie, c'est une enquête qui a porté sur les cagneux parisiens dans les années 60, inscrits à Louis le Grand et Henri IV. Taux de réussite au concours, 100 sur 129 reçus. Les cagnes alors n'étaient pas encore mixtes, et classes de filles et de garçons ne donnaient accès ni à la même école, ni à des carrières professionnelles identiques.
Personnellement, je dois dire que j'ai bien vécu les cagnes. J'ai été souvent surpris par la discordance qui pouvait exister entre la réputation, les mythes des cagnes et la réalité.
Qu'est-ce que c'est les mythes des cagnes ?
Eh bien, avant d'y entrer, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui d'abord m'ont parlé d'une atmosphère de compétition extrêmement tendue et qui m'ont parlé, dans le cadre de cette compétition, de méthodes particulièrement inélégantes. Vous savez, ce qu'on raconte toujours sur les cagnes, c'est que quand une personne trouve un document qui l'intéresse, elle l'utilise et s'empresse de le détruire pour que les autres ne puissent pas en profiter. On prétend que dans les cagnes, par exemple, on utilise fréquemment la notation négative. Elle se rencontre dans certaines classes prépa, mais sur 4 ans de classe prépa, je ne l'ai jamais rencontrée.
Votre pensée est embryonnaire. Esprit faux. Version grecque, 0,5 sur 20. Le sens a été vu par place. Cité par Jean-Pierre Faguer.
Ce prolongement déguisé du collège. Ces cours, ces leçons, ces gloses à l'infini, ce respect de tout et cette promiscuité. Toutes les idées mises en commun, piétinées par le troupeau, dans ces réduits sans air. Leur turne, rien que leur vocabulaire de cagneux, tiens, leur peau, leur caïman, non, jamais je n'aurais pu. Roger Martin Dugard.
Mais c'est vrai que moi qui viens d'une cagne de province, c'est vraiment l'idée qui me reste à l'esprit. C'est-à-dire qu'on avait tout un mythe bâti, toute une légende bâtie sur Henri IV. Comme quoi ils avaient fait les versions latines, grecques du concours, où ils avaient eu vent du sujet de sciences sociales, enfin des choses comme ça. Et que de toute façon, on n'avait aucune chance. Et puis quand je suis arrivée à Normale Sup, je me suis aperçue que tous les anciens cagneux d'Henri IV démentaient ces bruits. Mais en même temps, il les démentait, mais les bruits continuaient à courir. C'est-à-dire que même en étant à Normale Sup, on entendait parler de cette légende.
Je crois que la confiance qu'on acquiert et qui est véhiculée par Henri IV joue une grande part dans le taux de réussite. En plus de la sélection dont on a parlé, je crois que la confiance, c'est important. On a confiance quand on est à Henri IV.
Alors, je dois dire que pour moi, l'arrivée à Louis le Grand, ça a été la découverte assez brutale de la distinction sociale, c'est-à-dire de l'existence d'univers sociaux qui m'étaient relativement inconnus jusque-là, notamment la grande bourgeoisie parisienne.
Anne-Marie Thiès, Cagnes, 1974.
Bon, il y avait dans ma classe des fils ou filles d'ambassadeurs ou de hauts fonctionnaires qui ne différaient pas tellement de moi par l'habillement ou la manière de parler. Mais ce qui était remarquable, c'était que pour ces gens-là, je n'existais pas. J'ai pu passer un an dans leur classe en ayant l'impression d'être pour eux tout à fait transparente. Alors que dans ma Cagne de province, il y avait certes des différences sociales entre nous, des différences parfois relativement importantes, mais il existait un esprit de classe, c'est-à-dire chacun parlait à chacun et se saluait.
Et pour vous, il vous apparaissait comment, indépendamment du fait qu'il vous méprisait ?
Comme des êtres extraordinaires que j'observais avec beaucoup d'étonnement, en essayant de deviner quelle était leur vie en dehors de la classe. Et c'était un monde que je ne connaissais que par les livres et que j'ai découvert ensuite dans des études sociologiques. Oh, je pense par exemple à ces grands bourgeois qui sont représentés dans les romans de Nisan, par exemple, qui se profilent derrière les biographies de normaliens, enfin ceux chez lesquels les normaliens allaient faire les tapirs, comme on disait dans les années 30, c'est-à-dire là où ils allaient donner des cours particuliers. Bon, le souvenir que j'ai quand même des classes préparatoires, et je pense que ça existe encore de nos jours, c'est quand même une période de vigoureuse compétition entre les gens qui sont à l'intérieur d'une classe, ce qui n'exclut pas les amitiés, mais la compétition est là, le travail intensif aussi. Le féminisme commençait à se développer dans ces années-là, les groupes femmes sont apparus à peu près à ce moment-là. Ça n'était pas, lorsque j'étais en Cagne, aussi prégnant peut-être pour les discussions que l'actualité politique.
Alors moi, j'étais un peu marginale comme cagneuse, et Molière était encore un peu marginale comme lycée.
René Laetitia Richaud, Cagne 1962.
Parce que pendant l'hypocagne, je m'étais rendu compte effectivement que la littérature me passionnait, que la forme d'enseignement de certains profs me passionnait, que Paris m'offrait dans le domaine culturel me passionnait, mais que pour être cagneux, il fallait accumuler du savoir. Et cette notion d'accumulation du savoir n'était pas celle qui m'intéressait le plus. Donc ça n'a pas abouti à intégrer. Par contre, je pense que ce que ça m'a apporté, c'est la possibilité de découvrir finalement qu'on pouvait rencontrer la littérature comme un espace singulier.
Vous arriviez d'une autre région quand vous êtes arrivée à Molière.
Je venais du Midi, Cassis, Marseille, Arles. Et je ne sais pas ce que j'ai gardé vraiment comme accent actuellement, mais à l'époque, il était quand même assez sévère. Et ça a fait partie, à certains moments, de quelques souvenirs cuisants. Je me souviens, par exemple, que j'étais en train de discuter philo. Et au milieu de la discussion forcément enflammée, et elle m'a dit, vraiment, je ne peux pas écouter, discuter philo avec quelqu'un qui a un accent du Midi. Ça me paraît ne pas pouvoir coller.
Est-ce que ça voulait dire que ce n'était pas sérieux ou quoi ? Comment est-ce que vous l'avez interprété, ça ?
Alors, je l'ai interprété effectivement comme c'est pas sérieux, malgré ce qui m'a été dit. C'est-à-dire, c'est tellement charmant, c'est tellement agréable d'entendre l'accent du Midi, c'est tellement l'été, que ça peut pas aller. Mais c'est un vrai plaisir pour moi d'entendre l'accent du Midi. Oui, mais moi, c'était pas ça qui m'intéressait à ce moment-là dans la discussion.
À Jacques Rivière, à Bordeaux. La Canale, 4 octobre 1905. Mon cher Jacques, à présent je suis rentrée. Depuis que je suis ici, j'ai comme quelque chose qui m'étouffe. Je lutte à en mourir pour rattraper tout ce courage et cette confiance qui sont tombés. C'est dur, et noir, et inexplicable. Tout, plutôt que continuer d'être ainsi cloîtré physiquement et intellectuellement. Vivre avec des pions. Vivre avec des gens dont le métier est de mettre le cœur et l'âme du passé en formule, et me torturer. Muser le crâne attaché d'en faire autant. Alain Fournier.
Jean-François Sirinelli, les conditions de vie dans la Cagne en cette fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, sont décrites souvent dans ce que vous appelez une littérature anticagnale, très, très difficile, enfin, comme des lieux très difficiles à vivre.
Tout à fait. Mais là, il faut, si vous voulez, faire la part, j'allais dire des choses, je m'explique. Les conditions des jeunes lycéens des années 20, et a fortiori avant 1914, dans les lycées et collèges français, sont difficiles tout au moins au regard, si vous voulez, de nos canons contemporains. S'ajoute à ces conditions intrinsèquement difficiles la difficulté du concours. Mais il y a, par exemple, dans cette cagne de Louis le Grand, un monde entre le jeune interne venu de province, qui quelquefois a en Corse des côtés patoisants, ou en tout cas l'accent, et le jeune homme de la bourgeoisie parisienne, ou fils d'un professeur de lycée ou d'un professeur d'université parisien, qui lui est un externe, hein, et qui, d'une certaine façon, touche déjà à tous les trésors culturels de la capitale. Il y a comme ça, dans le roman, qui est peut-être la meilleure initiation littéraire à la Cagne, mais le problème, c'est qu'il fait 27 volumes, c'est Les Hommes de bonne volonté de Jules Romain. Il y a les deux personnages, mais vous me direz qu'ils ne sont qu'en Cagne qu'au tout début, et d'ailleurs, ils ne sont même pas en Cagne, puisque quand nous les saisissons, ils viennent d'être reçus à l'École normale supérieure. Toujours est-il qu'il y a les deux profils. Il y a le personnage de Gerfagnon, qui va être le héros, d'une certaine façon, de ce cycle romanesque, qui est un fils instituteur, monté de son massif central, hein, que Jules Romain présente comme mal dégrossi. Et il y a l'autre personnage, Jalaise, fils d'un employé de banque qui a été promu, donc fils d'un petit bourgeois devenu un moyen bourgeois parisien, qui lui a déjà, si vous voulez, tous les chatoiements culturels que Gerfagnon ne va acquérir que progressivement. C'est l'héritier, même si Jalaise n'est pas véritablement un héritier, et le boursier dont Gerfagnon est l'archétype. Mais en même temps, cette vision très noire est révélatrice, si vous voulez, quelquefois d'un mauvais souvenir laissé, mais inversement, d'autres Cagneux, peut-être les plus nombreux, parlent rétrospectivement de ces années comme d'années très difficiles. Il parle d'ergastule dans le langage de la Rome antique. L'ergastule, c'est l'endroit où on mettait les esclaves, mais l'ergastule qui a été en même temps le lieu où ils se sont formés, le lieu qui leur a donné une colonne vertébrale, et donc il parle avec reconnaissance de ces années-là. Donc, vous voyez, il y a toujours une ambivalence de la mémoire. Précisément, il faut bien voir que quand on parle de la Cagne, on parle d'un objet qui est probablement un lieu de mémoire parce qu'il a été sacralisé par des intellectuels qui y sont passés. Or, qu'est-ce qu'un intellectuel, sinon le dépositaire, d'une certaine façon, de la mémoire des mots? Ce qui est intéressant, c'est qu'à d'autres moments, les cagnes ont pu être, si vous voulez, des lieux d'effervescence. Je songe notamment à la période de mai 68 et surtout des années qui ont suivi mai 68, où les cagnes deviennent une sorte de caisse de résonance, si vous voulez, d'un gauchisme intellectuel, en quelque sorte. Et on a là plusieurs promotions de cagneux, dont certains deviendront normaliens, qui sont touchés par l'extrême-gauche et donc qui vont, connaître une sorte d'activisme, mais qui n'est plus du domaine de la ruse de potache ou du chahut de potache, mais qui est du domaine de l'action politique.
Ces années post-68, les Cagneux étaient extrêmement engagés. Il y avait même, je me rappelle, dans notre hippocagne, nous avions disposé les tables en forme d'assemblée et chacun était tenu de se placer dans l'hémicycle. Alors évidemment, la gauche était beaucoup plus garnie que la droite à cette époque-là. Mais ça a été, par exemple, les manifestations des entonnoirs contre la loi de Bray. Alors, je ne me rappelle plus d'où venait cet entonnoir, mais les lycéens et les préparationnaires défilaient avec des entonnoirs sur la tête. C'était quand même beaucoup de manifestations, puis aussi la fin de la guerre du Vietnam.
Est-ce que vous aviez des maîtres ?
Il est possible que certains dans la classe aient eu des images de référence fortes, des grands universitaires. Bon, en ce qui me concerne, je n'avais pas d'image de référence à quelqu'un que j'aurais pu considérer comme un maître. Je me demande si la notion de maître à penser n'est pas plus masculine que féminine.
Est-ce que vous avez eu des grandes admirations pendant cette année-là?
Alors, pendant la cagne, moins. Ma grande admiration était pour un professeur de l'année précédente, de l'année d'Hippocagne, qui était quelqu'un justement qui, je crois, dans sa forme d'enseignement, était aussi un peu marginal. Et ce que l'on attendait surtout d'elle, pendant les cours, c'était le moment où elle allait rompre un peu avec l'enchaînement logique des idées, la culture savoir, pour partir dans des digressions où, devant nous, elle se montrait rencontrant un texte à bras le corps, comme elle disait. Alors qui il y avait évidemment Camus à cette époque-là, Mallarmé, Dostoïevski, Gide, les discussions passionnées sur l'acte gratuit, suivre sa pente pourvu que ce soit en montant.
Des auteurs de lettres essentiellement, bien que ce ne soit pas ma discipline. Je pense à Yves Bonnefoy, je pense à Henri de Monterland, je pense à Flaubert que je n'ai pas découvert mais que j'ai épuisé en Cagne. Je considère que Madame Bovary est le plus beau roman qui a été écrit en langue française.
Les grandes admirations, les grandes passions ne naissent pas forcément par la Cagne. Elles naissent pendant l'année de Cagne, mais ça a quelque chose d'un peu accidentel. Il faut voir par exemple qu'en littérature, nous n'étudions que des auteurs français, quelques auteurs étrangers en cours de langue. Mais si votre goût vous porte vers Tolstoï ou vers Nabokov, il faut faire ça en dehors de la Cagne.
La grande admiration de nos professeurs et des plus doués de nos camarades dans cette époque-là, c'était Giraudoux. Giraudoux était au sommet de sa gloire à ce moment-là. Et alors, on savait tous des tirades ou des morceaux de la guerre de Troie, d'Amphitryon 38, d'Électre. Cela porte un très bon nom, femme Narcès, cela s'appelle l'Aurore. J'ai beaucoup aimé, je lui ai d'ailleurs rendu justice à plusieurs reprises, le professeur d'histoire, M. Ours, le père Ours, comme nous disions, mais c'est une influence intellectuelle que je ressens rétroactivement. Mais sur le moment, nous ne l'idolâtrions pas. Et c'était le professeur d'histoire. Et accessoirement, si je puis dire, un clandestin de la résistance, c'était un démocrate chrétien, lui aussi. Il passe pour avoir été l'un des fondateurs dans la résistance de ceux qui allaient émerger sous le nom de MRP. Il est quand même le premier qui nous ait dit que, en plus de l'histoire politique et événementielle classique, il existait des choses comme la revue Annale, l'histoire économique, l'étude de séries de prix, l'étude de techniques agraires, un personnage nommé Lucien Febvre ou un personnage nommé Marc Bloch. Tout ça, ce sont des choses qui existaient avant 1939, mais dont je n'avais jamais entendu parler, même en 42 ou 43, par mes professeurs du lycée d'Avignon, qui faisaient des cours de manuels intelligents, mais archi-classiques. Et c'est le père qui est le premier, incidemment, mais il parlait beaucoup par digression, nous a indiqué qu'il existait une autre façon de faire l'histoire.
Le plus bel âge, Didier Hautepin.
Je suis ce que Barrès appelle un déraciné.
Il y a une page très élogieuse sur des sentiers dans l'histoire du cinéma, de Bardache et Brasillac. C'était un fasciste, ce type, mon Brasillac.
Il a été fusillé en 45. Il aimait vraiment le cinéma.
Et vous, vous êtes fasciste?
Oui, je le crois. Je le suis devenu. J'ai toujours été anticommuniste d'instinct.
Anticommuniste d'instinct? Devenir fasciste?
Brieux-La Rochelle, Brasillac, justement. J'ai toujours éprouvé une sorte de tendresse pour les types comme ça. Pour eux, le fascisme, c'était le vrai communisme. Rio dit qu'il faut s'exceller les mains au moins une fois. Avoir eu le malheur dans sa vie de tuer quelqu'un.
Et vous, vous avez déjà tué quelqu'un?
Non, je n'ai pas tué.
Jean-François Sirinelli, le mot rhétorique, c'est très important hein, pour la cagne. Il me semble que c'est quand même la base, le fondement de la réflexion et de la manière de se décrire et de se comporter.
Il faut bien voir que le concours de l'École normale supérieure est une sorte de condensé à l'époque, hein, de quintessence des disciplines jugées nobles de l'enseignement secondaire. Et la base, si vous voulez, de l'époque, ce sont ce qu'on appelle à l'époque les humanités. Et ce qui est intéressant, et ce que ne manquent pas de souligner les adversaires de Lacagne, c'est que Lacagne, au fil des décennies, est restée la dépositaire, mais les adversaires diraient, est-ce qu'elle n'est pas devenue un conservatoire, presque dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire une sorte de réserve ethnologique où se conserveraient des espèces du passé et des formes héritées du passé. Alors, avec l'apprentissage d'un certain nombre de choses, comme notamment ce que j'ai nommé dans un ouvrage, la mystique du plan. Alors, la mystique du plan, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que, bon, il y a, si vous voulez, une sorte de dressage, et on retrouve la notion de noviciat, à la technique du plan. Bon, mais ça nous intéresse pourquoi ? Ça nous intéresse si on fait l'histoire de la culture. Parce qu'un certain nombre d'anciens cagneux sont devenus de grands intellectuels, quelquefois de grands écrivains. Et donc, est-ce qu'ils ont su s'affranchir de ce qui n'était qu'une forme d'apprentissage ? Nous retrouvons là, d'une certaine façon, l'autre raison qui fait de la cagne un lieu de mémoire, c'est que des générations successives d'intellectuels se sont formés dans la cagne. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la cagne n'a pas été simplement un lieu d'apprentissage, un lieu de formation, elle a été aussi un lieu de sociabilité pour des jeunes générations intellectuelles en gestation. Et on pourrait citer comme ça toute une série de grands noms qui deviennent un petit peu le symbole de générations successives.
Et alors qui ?
Au XXe siècle, vous avez par exemple dans les années 20 une génération qui est très intéressante parce que c'est une génération née avec le siècle. Et il y a deux noms qui sont intéressants parce que ce sont deux noms qui se retrouvent dans la même promotion de 1924. C'est Jean-Paul Sartre et Raymond Aron qui deviennent, d'une certaine façon, les deux images du cagneux. Jean-Paul Sartre, c'est le potache surdoué dont les dons lui permettent de traiter aisément les exercices de la rhétorique, mais qui s'en libère presque aussi vite. Et il y a Raymond Aron qui, d'une certaine façon, aura un itinéraire plus classique, puisque dans les années 30, il deviendra un des grands noms de la sociologie, fera une thèse brillante et qui est demeurée une étape de la pensée sociologique française. Et donc, on a ce premier exemple. Mais on pourrait citer d'autres générations. Prenons par exemple, je pense que la Cagne a connu un second âge d'or. On peut citer dans le domaine qui est le mien, comme le domaine des historiens, des gens comme Emmanuel Leroy-Ladurie, comme Maurice Agulon, comme Pierre Nora. On a là, si vous voulez, pour un historien qui veut faire une sorte d'archéologie du milieu intellectuel, et d'ailleurs ça avait été fait déjà par Hamon et Rothman quand ils avaient fait un livre qui s'appelait « Les intellocrates », ils avaient pointé, en quelque sorte, ces cagnes de l'après-guerre, où se nouaient déjà des sentiments communs de génération et des amitiés quelquefois durables.
Jean-François de Saint-Cy, Jacques Derrida, Georges Dumézil, Émile Durkheim, Victor Duruy,
Jérôme Carcopino, Jean Cavaillès, Aimé Césaire, André Chastel, Maurice Clavel, Laurent Cohen-Tanoufi.
Marc Bloch, Léon Blum, Étienne Borne, Raymond Goudon, Jacques de Bourbon-Busset, Pierre Bourdieu,
Henri Faucillon, Michel Foucault, Henri Franck, André François Poncet.
Raymond, la formation intellectuelle, en quoi ça consiste ?
Quand je compare avec le cursus qui est fait en faculté, cursus de lettres ou de philo, l'avantage de la Cagne, c'est que c'est un cursus pluridisciplinaire où on fait à la fois de l'histoire, de la philo, des lettres, des langues, et où il y a une cohérence, où les choses s'assemblent. Ce qui est vrai, c'est que il y a des tics qu'on prend malgré soi. Et sur ce mot de paradigme, c'est vrai qu'au concours, ensuite, quand j'ai passé l'épreuve orale, c'est quelque chose qui m'est venu, qui faisait pas partie de mon vocabulaire, comme ça, de ma façon de parler, de m'exprimer dans les dissertes couramment, qui m'est venu, qui est resté collé comme ça dans la bouche, dont j'ai pas pu me débarrasser, et je me suis fait taper sur les doigts en déclinant. J'arrêtais pas de décliner le paradigme. Alors c'est vrai que c'est un vocabulaire qui gonfle parfois du vide.
On dit que Genette, par exemple, était incontournable.
Alors c'est vrai que moi, quand je suis arrivé en petit hypocagneux, le prof donnant des conseils pour la première disserte ou des choses à lire tout de suite, il donne Genette, Barthes, les figures 1, figure 2, comme les figures imposées. C'est vrai que c'est vrai que ça marque, mais bon, ça marque moins que la découverte à la même époque de Jacoté. Je pense à lui ou Reverdy ou bon Bonnefoy l'année suivante, mais parce que c'était un auteur inscrit au concours. Le fait qu'il soit inscrit au concours, c'est pas tellement bon pour s'y plonger, parce qu'il y a toujours cette perspective de la rentabilité. Mais Jacoté, Reverdy, oui, Ponge. Ça marque plus que Genette quand même, ouais.
Roland Barthes. Cette phrase de Barthes qui vous a fait peur.
Oh, ça disait « Écrire, c'est débranler le sens du réel et y disposer une interrogation indirecte à laquelle l'auteur, par un dernier suspense, s'abstient de répondre. » Ça marquait vraiment l'entrée dans la cagne parce que c'était de l'inconnu.
Finalement, moi je dis toujours, ce qui compte, ce qui fait le départ, c'est la cagne, c'est pas le succès à la rue d'Ulme. Il n'y a pas de différence, en fait. L'école n'ajoute pas grand-chose. La formation, elle est déjà faite.
Raymond, est-ce qu'on est cagneux à vie ?
Cagneux à vie, cagneux pour la vie. Moi, non. Cagneux pour la vie, comme je pourrais être amoureux pour la vie. Ou... Non. Moi, enfin, avec la cagne, j'étais plutôt dans une espèce d'union libre, et puis j'avais besoin d'en sortir, de faire d'autres choses à côté, au moment de passer les concours, de tourner un court-métrage, de découvrir la photo, d'être amoureux aussi. Donc il y a des choses qui restent, mais pas cet habit de cagneux qui sonne un peu moyenâgeux dans ma tête, ouais. Alors on peut tomber sur des profs qui n'imposent pas une loi et qui nous laissent découvrir et se coltiner cet exercice d'écriture, ces peurs blanches qu'on peut avoir devant l'écriture, ces résistances pendant un mois ou deux. Et elle est là, la formation, je pense. Enfin, pour moi, elle est là. Elle est dans une espèce de combat avec sa propre difficulté d'écriture et d'expression. Moi, j'écrivais en cagne. Un peu pour par salut, même si quand je me replonge là-dedans, c'était pas terrible. Mais c'est ce qui se fait dans la marge.
Lieu de mémoire, la Cagne, avec Héloïse, Alexandre, Thomas, Jean-Dominique, Raymond. René Raymond, historien, professeur, président de la Fondation nationale des sciences politiques. Maurice Agulon, professeur au Collège de France. Jean-François Sirinelli, professeur à l'Université de Lille. René Laetitia Richaud, psychothérapeute. Anne-Marie Thiès, maître de recherche en littérature au CNRS. Extrait du film Le plus bel âge de Didier Hautepin. La voix de Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, Louis Althusser. Archivina, 1952, 1958, 1976. Texte lu par Blandine Molinier. Prise de son, Mario Campolongo, Patrick Antena. Mixage, Guy Senot, Pierrick Charles. Réalisation, Nathalie Triand-Dafilides. C'était une émission de René Elkaïm-Bollinger.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 décembre 1996.